amis, nous avons appris par les moyens ordinaires d'information que dans la nuit du 20 au 21 octobre, le gouvernement du Québec a voté d'urgence un bill d'urgence pour arrêter d'urgence la grève des autobus à Montréal. En même temps, le gouvernement prenait une injonction contre le piquetage des employés d'épicerie qui étaient en grève depuis 2 jours dans la ville de Québec et les environs. Injonction valable jusqu'au 27 octobre. Toute la population, sauf les révolutionnaires qui sont en très petit nombre, toute la population était amplement satisfaite de ces mesures d'urgence qui permettaient de retourner à la vie quotidienne normale pour l'instant. Nous aussi, nous aurions volontiers offert nos compliments à Daniel Johnson et aux députés. Mais, cher peuple, il ne faudrait pas se jouer des tours et retourner à notre quiétude, par trop bonasse souvent. En fait, il n'y a pas grand-chose de réglé au fond du problème. Les grèves continuent à se multiplier. Les prix continuent à monter. La dictature syndicale continue à se fortifier. Les manifestations révolutionnaires au Québec continuent leurs ébats au nez d'une police qui se laisse complaisamment cogner sur la tête. Voilà pour le champ de bataille syndical où la dictature syndicale règne en maîtresse dans notre province, pas encore jusqu'à s'emparer des pouvoirs civils, mais c'est pour demain. Déjà, la dictature syndicale fait la pluie et le beau temps dans les salaires, dans les prix et à 99% dans les grèves et par conséquent dans nos vies à tous. On peut dire d'elle comme de la dictature financière. Sans sa permission, nul ne peut plus respirer. C'est qu'il faudrait mettre la hache dans la dictature syndicale. Et le code du travail qui se prépare, s'il ne met pas la hache dans la dictature syndicale, sera un tour joué au peuple et au gouvernement par les chefs de syndicats. Ce qu'il faut grandement redouter. On ne peut croire que les chefs de syndicats ont battu en retraite dans la nuit du 20 octobre au 21. Sans doute que Marcel Pépin, qui a montré son visage le lendemain à la télévision, n'avait pas l'air d'un vainqueur, mais ses maîtres marxistes ont dû lui remonter le moral depuis ce temps-là et lui passer un feu nouveau pour cuisiner le code du travail. On le voit d'ailleurs dans les interlignes des journaux, ces marxistes, qui déclarent que cette apparente défaite syndicale pourrait bien être plutôt un réveil syndical. Ils sont dans le jeu des communistes pour embrigader les gouvernements sous la dictature syndicale. Un code du travail voudra régir les relations entre parents et entre patrons et employés. Mais ce code du travail ignorera-t-il la formule créditiste pour régler les relations entre patrons et employés? S'il le fait, il sera alors arriéré. Un code pour la distribution de la rareté au lieu d'être un code moderne convenant au progrès XXe siècle pour la distribution de l'abondance. Les relations entre patrons et employés ne seraient-elles pas réglées d'une façon magistrale par le crédit social? Le crédit social garantit le nécessaire à tout citoyen par un dividende mensuel. Disons 50 piastres par mois à chaque membre de la famille de l'employé, comme des autres familles. Et ce dividende serait social, venant non pas de l'industrie, mais de la société. Alors, il ne passerait pas dans les prix, il ne ferait pas monter les prix. Est-ce que ce dividende social ne vaudrait pas mieux que toutes les augmentations de salaire possibles et impossibles? Et le dividende social, vous l'obtiendriez sans grève, sans sacrifier votre salaire pendant un mois ou plus, sans même faire partie d'un syndicat, ni sans doute payer de cotisations syndicales obligatoires, soustraites à la source. Le dividende social serait complété par l'escompte sur les prix, qui maintiendrait les prix au niveau de votre pouvoir d'achat. Ne serait-ce pas merveilleux pour les chauffeurs d'autobus, pour les commis d'épicerie et pour les autres? Avec un dividende de 50 piastres par mois à chaque personne, et non seulement à chaque employé, mais aussi à sa femme et à ses enfants, l'employé pourrait tout seul faire ses conditions au patron qui serait libre économiquement à 100%. L'employé pourrait si bien poser ses conditions au patron que le patronat actuel disparaîtrait petit à petit pour faire place à l'association de l'employeur et de l'employé, ou plutôt à l'association des compétences pour l'exploitation d'une industrie et d'un commerce. Ce serait alors très facile pour des hommes compétents de joindre leurs efforts dans une entreprise, puisque le crédit social, la maison de crédit social, le bureau de crédit leur ferait des avances d'argent sans intérêt pour produire de la richesse. On en arriverait à la promotion ouvrière véritable, sans léser les droits de personne, sans voler les patrons de leurs biens, ni de leurs droits de gérer. La hache dans la dictature syndicale ne se pratiquera très bien que simultanément avec la hache dans la dictature bancaire. Le premier ministre Daniel Johnson a dit, à l'occasion du bill numéro 1, il a dit le syndicalisme dans la province de Québec, tant que j'aurai un mot à dire, devra demeurer le syndicalisme et ne sera jamais le gouvernement. Il ne fera jamais marcher le gouvernement. Il a dit ça. Parole de souverain pour laquelle nous félicitons le premier ministre et nous exprimons nos espoirs que cette détermination le suive jusqu'au bout. Défoncez la dictature syndicale et défoncez la dictature bancaire, les deux à la fois, car l'une nourrit l'autre. Elle s'engendre réciproquement, ces deux dictatures-là. Ce que le peuple demande à son gouvernement, c'est de la fermeté pour réprimer les crimes de toutes sortes, les crimes économiques comme les autres. On ne pourra tenir les syndicats dans leurs bornes si on n'abolit pas la cotisation syndicale obligatoire ni le droit au piquetage. De même si on continue à permettre le droit de grève dans les services publics, parce qu'alors on leur consent tout pouvoir sur nos vies. Et il faudra interdire les manifestations révolutionnaires. C'est vraiment sans vergogne que n'importe quel voyou peut troubler l'ordre et la paix, menacer même la vie des gens, aujourd'hui, dans nos rues du Québec, et les syndicats révolutionnaires profitent de cette tolérance complice pour s'exercer à l'émeute et pour préparer une anarchie véritable qui leur ouvrira les portes des parlements où ils pourront s'installer effrontément, comme les communistes l'ont fait dans tant de pays depuis 50 ans, par le truchement des syndicats et des associations d'étudiants. La manifestation des grévistes à Montréal, après l'injonction du gouvernement, le 14 octobre, à 5 heures du matin, au coin du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Denis, devrait être punie dans ses coupables, les assommeurs et leurs chefs. Marcel Pépin sera-t-il appelé à rendre compte de ces crimes-là, car ce sont des crimes? Le premier ministre reçoit cet homme dans son bureau. Voici le roi qui dialogue avec le chef de la révolte. Et les journalistes les photographient ensemble. On est descendu creux dans la fosse politique. Une manifestation semblable, et pire encore peut-être, était préparée pour Québec, devant le Parlement, dans la nuit du 20 au 21 octobre. On avait convoqué des milliers de mécontents et 2000 professeurs éducateurs avaient promis qu'ils s'y rendraient. Programme, protester avec violence contre le bill numéro 1. Le ministre de la Justice a fait savoir par la radio que la police était armée jusqu'aux dents et en même temps il recommandait aux manifestants d'aller à l'extrême limite de la patience. Dieu merci, il y eut beaucoup d'appelés, mais peu d'élus pour cette manifestation. Quelques centaines seulement s'y rendirent sur l'invitation des révolutionnaires. Comme quoi, la révolution au Québec n'est pas encore mûre. Encore Dieu merci. Mais quand même, la police en a vu de toutes les couleurs. Sur la place du Parlement, des feux symboliques brûlant des effigies du gouvernement. Et puis, une motocyclette de la police mise en flamme, des coups de poing et autres aux policiers, etc. Les journaux n'en disent pas trop, parce que les manifestants sont leurs amis. Pourquoi la police à Québec n'avait-elle pas reçu l'ordre de briser toute tentative de manifestation? Même de disperser les curieux, ce n'était pas le temps de permettre l'éducation politique, encore moins de tolérer une propagande révolutionnaire, surtout de la part de ceux qui avaient déjà monté une émeute la semaine précédente à Montréal. Le peuple demande que la police, représentant le droit, soit respectée et que l'autorité qu'elle représente exprime sa force véritable contre tout essai d'anarchie, violente ou non, et que les chefs révolutionnaires soient coffrés. La loi du cadenas de célèbre mémoire n'était-elle pas issue d'une grande sagesse? N'a-t-elle pas réellement, la loi du cadenas, protégé la province de Québec d'une révolution certaine, même déjà dans ce temps-là? Ils se reprennent, les révolutionnaires, depuis la mort de Maurice Duplessis. Notre presse a toute liberté de prêcher n'importe quoi. La radio et la télévision présentent les chefs révolutionnaires à cœur de jour. Si la révolution préméditée a avorté le 14 octobre à Montréal et le 21 octobre à Québec, il n'est pas dit qu'elle ne triomphera pas un jour chez nous. Nos syndicats d'étudiants sont aussi avancés dans la violence que dans les pays déjà gouvernés par les communistes. Les étudiants du collège de Jonquière ont manifesté grossièrement et ils ont pratiquement enterré notre marche de chapelet le dimanche 24 septembre dernier à Bagotville. C'était des blasphèmes. Et la police de Bagotville leur laissait le champ libre. À ce même collège de Jonquière, l'Association générale des étudiants déclarait, quelques jours après cet incident du 24 septembre, déclarait que les étudiants quittaient désormais le chemin de la révolution tranquille pour préparer, pour animer la véritable révolution. Notre équipe, disent les dirigeants de l'association, est fermement décidée à tout mettre en œuvre pour donner une véritable conscience révolutionnaire aux étudiants et au peuple québécois. Et ce syndicat d'étudiants se prononce contre tout ce qui est bon dans nos institutions et en faveur de tout ce qui est mauvais. Et il organise effectivement chez ses membres la révolution contre l'ordre établi, par des tracts, des manifestations, des débats, conférences, rencontres avec les syndicats ouvriers, partis politiques, et même par la création d'une équipe choc pour saboter toute manifestation réactionnaire. Ils le disent eux-mêmes. Vous avez bien compris. Ce sont les étudiants du syndicat du collège de Jonquière qui fourniront les révolutionnaires de la rue, comme d'ailleurs les étudiants le font dans tous les pays du monde où les révolutionnaires sont à l'œuvre. Ce que je vous en révèle, mes amis, est pris tout entier dans le journal Le Soleil, 30 septembre. Comme vous voyez, ce n'est pas un secret. Remarquez bien que les pères Oblats sont directeurs et professeurs dans cette école qui relève de notre très cher ministère de l'Éducation. Encore une dictature à abattre, messieurs du gouvernement, celle de la dictature scolaire que vos fonctionnaires exercent contre les enfants et les parents. Dictature syndicale, dictature bancaire, dictature scolaire et dictature de taxes. La hache, dans tout cela, il le faut. Et mesure d'urgence. Un gouvernement qui respectera le bien commun au point de ne pas permettre aucune dictature sur le dos des gens peut être assuré de l'appui total de notre peuple. Ne l'avez-vous pas expérimenté déjà au moins 3 fois depuis juin 65, Monsieur Johnson? Lors de la grève des hôpitaux, lors de la grève des professeurs, et à ces 2 dernières grèves des autobus et de l'alimentation, continuez, Monsieur le Premier ministre. Le Dieu de justice est aussi le Dieu de force. Il fait tomber les orgueilleux de leur trône, et il exalte les humbles qui le prient. Vous avez entendu, messieurs, mesdames, le programme du journal Vers Demain, dont voici l'adresse pour toute communication. Journal Vers Demain, Rougemont, comté Rouville.